et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 6 juillet 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Cérémonie d'investiture du nouveau président malawite Lazarus Chakwera qui a appelé ses compatriotes au sacrifice pour relever le pays. En RDC, 6 soldats et 2 civils ont été tués dans une attaque dans le sud Kivu vendredi, indique l'armée. Arrestation en Éthiopie de 5 opposants du Front de Libération Oromo suite aux violences qui ont fait 166 morts la semaine dernière. Covid-19, nouveau record d'infection aux États-Unis. Les autorités sanitaires sont débordées au Texas et en Arizona. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Le nouveau président du Malawi, Lazarus Chakwera, a appelé ses compatriotes au sacrifice pour relever le pays lors d'une sobre cérémonie d'investiture. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le président Lazarus Chakwera a indiqué que les Malawites devaient avoir le courage de faire face à la dure réalité s'ils veulent un jour profiter de la plénitude de leur nation. Nous sommes tous une partie des problèmes du Malawi, nous devons tous participer à leurs solutions, a-t-il ajouté. Le président Chakwera s'est ainsi lui-même engagé à publier chaque année une déclaration de patrimoine et à répondre de ses actes devant le Parlement. Pour lui, la reconstruction passe d'abord par l'éradication de la corruption, de la paresse, de la dépendance envers les donateurs, de l'impunité, du manque de professionnalisme et l'incompétence. Lazarus Chakwera, un ancien pasteur évangéliste de 65 ans et jusque-là chef de l'opposition, a remporté l'élection du 23 juin avec 58,57% des suffrages devant le sortant Peter Mutharika au pouvoir depuis 2014. Ce scrutin a été organisé après l'annulation pour cause de fraude de la réélection de M. Mutharika en 2019. Tout au long de sa campagne, le nouveau chef de l'État a dénoncé la faillite économique et la corruption du gouvernement de son prédécesseur.
En République démocratique du Congo, 6 soldats et 2 civils ont été tués et 9 personnes blessées vendredi dans l'attaque par 3 groupes armés d'une position militaire dans le sud Kivu, selon le porte-parole de l'armée dans la région, Dieudonné Kazereka. Les forces armées ont repoussé l'attaque et renforcé leur position autour du village Toué-Toué pour sécuriser la population, a indiqué l'officier. Près de 800 civils ont été tués par le groupe armé ADF dans l'est de la RDC depuis janvier 2019, selon un rapport des Nations Unies qui dénonce de possibles crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les exactions des ADF se sont intensifiées jusqu'à janvier 2020 avec les exécutions sommaires d'au moins 496 civils, dont 142 femmes et 25 enfants selon l'ONU. Le parti du président sénégalais a annoncé exclure de ses rangs Moustapha Cissé Lo, député et ex-président du Parlement des États d'Afrique de l'Ouest, à la suite d'accusations de propos injurieux contre des membres du parti. Surnommé El Pistolero, le vice-président de l'Assemblée fait souvent la une des journaux pour ses écarts de langage. 5 marins chinois ont été enlevés lors d'une attaque contre un porte-conteneur dans les eaux nigérianes, selon le ministère chinois des Affaires étrangères. Le 2 juillet, un cargo naviguant sous pavillon de Singapour a été attaqué par des pirates au large du Nigeria et 5 marins chinois ont été kidnappés, a déclaré le gouvernement chinois, qui demande au Nigeria de prendre des mesures pour retrouver ses ressortissants. En Éthiopie, 5 leaders d'un des principaux partis d'opposition, Oromo, ont été arrêtés pendant des violences qui ont fait 166 morts la semaine dernière. John Linden en dit plus.
Le président du Front de Libération Oromo, Dawid Ibza, a indiqué lundi que 5 cadres du parti, dont 2 conseillers politiques et un membre du comité central, ont été arrêtés ces derniers jours par les forces de sécurité à Addis Abeba. La semaine dernière, des manifestations ont été déclenchées par le meurtre du chanteur Achalou Oundessa, porte-drapeau de l'ethnie Oromo, abattu de plusieurs balles par des inconnus à Addis Abeba, la capitale. Selon un nouveau bilan communiqué samedi par la police régionale de la région Oromia. 145 civils et 11 membres des forces de sécurité ont perdu la vie dans les violences, auxquelles viennent s'ajouter 10 victimes à Addis Abeba. Plus de 160 personnes ont été gravement blessées et près de 1100 arrêtées, toujours de sources policières. Ce sont les pires violences depuis l'arrivée au pouvoir du premier ministre Abiy Ahmed, lui-même issu de l'ethnie Oromo.
La police zimbabwéenne a arrêté au moins 13 infirmiers et syndicalistes qui manifestaient devant un hôpital de Harare pour des hausses de salaire. Ils devraient être déférés devant un tribunal mardi, selon le président de l'Association des infirmiers du Zimbabwe, Enoch Dongo. En Algérie, le procès pour corruption de l'industriel de l'automobile Mayedine Takout s'est ouvert ce lundi à Alger. L'homme d'affaires était le propriétaire d'une usine d'assemblage du constructeur sud-coréen Hyundai. Sont auditionnés à ses côtés deux ex-premiers ministres Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal, déjà condamnés avec d'autres personnalités dans une série de scandales de corruption.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de Covid-19 a fait plus de 535 000 morts sur plus de 11 millions des cas d'infection dans le monde. Certains pays voient leur taux d'infection grimper comme les États-Unis, le Brésil et l'Inde. Le point avec Nanit Talani.
L'Inde a recensé près de 700 000 cas confirmés et devient le troisième pays le plus touché au monde derrière les États-Unis et le Brésil. Les États-Unis ont enregistré 40 000 cas en 24 heures. Nous avons rouvert beaucoup trop tôt en Arizona, déplorent les autorités qui plaident pour un reconfinement. En Arizona, près de 90% des lits en service de réanimation sont occupés. Au Texas, les services de réanimation risquent d'être débordés d'ici 10 jours. Les plages de Los Angeles ont de nouveau été fermées et Miami est sous couvre-feu. L'Afrique totalise plus de 11 300 décès pour environ 479 000 cas. Antananarivo, la capitale malgache, sera de nouveau placée en confinement. Le Kenya reprend tous ses vols le 1er août. Le président Uhuru Kenyatta a assuré qu'il n'hésiterait pas à reconfiner si la situation sanitaire s'empirait.
En France, formation du nouveau gouvernement conduit par Jean Castex, a annoncé le secrétaire général de la présidence Alexis Kohler. Le poste de ministre de l'Intérieur a été confié à Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Action et des Comptes publics. La transition écologique revient à la députée Barbara Pompili. L'avocat Éric Dupond-Moretti a été nommé ministre de la Justice. Les tensions diplomatiques se multiplient suite à la loi chinoise sur la sécurité nationale imposée à Hong Kong. La Chine accuse le Royaume-Uni d'ingérence et a mis en garde le Canada après leurs sanctions. Claire Morin-Gibourg.
La décision britannique de faciliter l'accès à la citoyenneté pour les Hongkongais en réaction à la nouvelle loi chinoise sur la sécurité a fortement déplu à Pékin. L'ambassadeur de Chine à Londres a accusé aujourd'hui le Royaume-Uni d'ingérence grossière dans les affaires intérieures. La Chine a également adressé une mise en garde au Canada après les sanctions annoncées par Ottawa suite à la loi sur la sécurité. C'est une violation grave du droit international, a affirmé Zhao Lijiang, porte-parole de la diplomatie chinoise. Le Canada devra en assumer toutes les conséquences. La Chine a mis en garde ses ressortissants contre des incidents violents au Canada et les a appelés à la prudence. Par ailleurs, Facebook et son service de messagerie WhatsApp ont annoncé qu'ils ne répondraient plus aux demandes d'informations relatives à leurs utilisateurs émanant du gouvernement chinois et des autorités de Hong Kong dans un souci de faire respecter la liberté d'expression.
La Cour suprême des États-Unis a jugé que les grands électeurs chargés de désigner le président américain dans le cadre du scrutin indirect pouvaient être sanctionnés s'ils s'affranchissaient du choix des citoyens. Les 9 juges se sont prononcés à l'unanimité sur cette question, susceptible de peser sur l'issue du scrutin présidentiel dans 4 mois. Le président américain Donald Trump a demandé des excuses au pilote de NASCAR Bubba Wallace qui avait déclaré qu'une corde avec nœud coulant avait été découverte dans son garage. La corde rappelant les lynchages en période ségrégationniste, le FBI avait ouvert une enquête et déterminé qu'elle était ici depuis des mois, donc que le pilote n'a pas été la cible d'un acte raciste. L'affaire avait eu un fort écho médiatique. Le chercheur irakien Hisham al-Hashemi, spécialiste des mouvements djihadistes, a été assassiné ce soir près de son domicile à Bagdad, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Monsieur Hashemi apparaissait périodiquement dans les médias locaux ou internationaux et était consulté par des chancelleries et personnalités politiques irakiennes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
En RDC, le ministre des Mines, Willy Kitobo Samsoni, veut rencontrer des sociétés minières pour convenir d'un moratoire sur le confinement des travailleurs. Les entreprises doivent trouver des solutions appropriées pour mettre fin au confinement des employés dans les sites, tout en protégeant à la fois l'économie et les travailleurs qui ont été séparés de leur famille depuis longtemps. Le coronavirus a porté un coup fatal au secteur minier en RDC après avoir généré 32% du PIB et 95% des recettes d'exportation en 2018. Le gouvernement sénégalais donne un nouveau délai d'un mois aux commerçants du marché de Sandaga qui avaient été sommés de déguerpir au plus tard le week-end dernier pour permettre la réhabilitation de l'édifice historique en ruine. Les commerçants doivent profiter de ce nouveau délai pour rejoindre leur site de recasement provisoire. Certains parmi eux tentent de résister. Selon eux, l'emplacement du site de substitution est peu propice aux affaires, contrairement au quartier de Sandaga qui draine les foules et constitue une curiosité pour les touristes. Pour terminer, des employés de sites pétroliers dans le Sahara tunisien sont en grève à l'appel du puissant syndicat UGTT. Objectif, appuyer les demandes des habitants de la région qui réclament des emplois. Cette grève intervient après des troubles sociaux fin juin à Tataouine dans le sud, où des chômeurs réclamaient les emplois promis par le gouvernement en 2017.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La FIFA hausse le ton face aux problèmes qui minent le football zambien. Nous notons avec préoccupation qu'à ce jour, les procédures contre la Fédération zambienne de football sont toujours en cours devant les tribunaux zambiens. Cette situation constitue une violation totale des statuts de la Fédération zambienne de football et de la FIFA. Toute décision d'un tribunal zambien sera considérée comme une ingérence de tiers, a fait savoir la FIFA, menaçant que si la situation n'est pas normalisée dans les 10 prochains jours, elle se chargera elle-même de cette affaire. La Fédération zambienne devait renouveler son comité exécutif depuis le début de l'année, mais des membres ont traduit l'instance en justice pour contester les statuts. Parmi eux, des partisans de l'ancien président Kalusha Bolia, dont la candidature a été invalidée. En athlétisme, le marathon de Paris, une première fois repoussé au 18 octobre, a été de nouveau décalé au 15 novembre. Le semi-marathon de Paris aura lieu de son côté le 18 octobre. Ce nouveau report du marathon de Paris intervient après l'annulation le 24 juillet des marathons de New York et de Berlin, deux des courses les plus prestigieuses du calendrier. Celui de Boston avait été de son côté reporté du 20 avril au 14 septembre avant d'être annulé fin mai. Les marathons de Londres reportés d'avril au 4 octobre et de Chicago repoussés au 11 octobre sont en revanche toujours maintenus. Justement, ici aux États-Unis, les Milwaukee Bucks, leaders de la saison régulière de NBA, ont fermé leur centre d'entraînement par crainte d'une contamination au COVID-19. Des tests du coronavirus réalisés vendredi ont amené la franchise à prendre cette décision. Les Los Angeles Clippers, les Denver Nuggets et le Miami Heat ont aussi suspendu les entraînements dans leur installation. Les seuls entraînements autorisés sont pour leur individuel. Les joueurs ne pourront reprendre l'entraînement collectif qu'une fois à Orlando. La saison régulière doit reprendre le 30 juillet avec 22 équipes candidates aux playoffs qui commenceront le 17 août. Toujours ici, aux États-Unis, la MLS revient ce mercredi en mode Coupe du Monde. Le tournoi met en lice les 26 clubs de la Ligue. Elles sont réparties dans 6 groupes. Dans chaque groupe, chaque équipe jouera 3 matchs, seront qualifiées pour les 8e de finale. Les 3 premiers du groupe A, les 2 premiers des 5 autres groupes, ainsi que les 3 meilleures équipes parmi les 3e des groupes B à F et le 4e du groupe A, à compter des 8e de finale. Si un match à élimination directe se termine par un résultat nul, les équipes se départageront avec une séance de tir au but sans prolongation jouée au préalable. La finale se disputera le 11 août.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018, appelle à des élections anticipées au regard de la confusion au sein des institutions. Il annonce son retour à Kinshasa après 4 mois aux États-Unis, où les mesures de fermeture des frontières l'ont surpris. Eddy Issango lui a tendu le micro à Washington.
Pardonner ne veut pas dire que l'affaire n'a pas existé. Ça a existé, mais qu'on ne revienne pas là-dessus. Moi, j'ai pardonné. Maintenant, je ne veux pas rester dans le passé. Je suis dans l'avenir. Que faire dans l'avenir? La proposition est sur la table. Alors, c'est ceux qui ne pardonnent pas. C'est ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont volé. C'est ça le problème. Parce que vous dites pardonner, mais ceux qui ont volé, qui ont fauté, doivent reconnaître aussi qu'ils sont dans le tort et ils doivent se repentir.
Vous venez de terminer, de passer 4 mois ici et vous dites que vous rentrez au pays et l'une des choses que vous pensez faire, vous appelez à des élections anticipées. Et comment vous allez-vous y parvenir? Par quel mécanisme?
Je demande à nos pères spirituels, donc aux leaders de nos confessions religieuses et aux dirigeants de la SADC, de réunir les politiciens, toutes les parties prenantes, autour d'une table pour que on discute et qu'on décide des réformes urgentes et nécessaires afin que nous puissions, après ces réformes-là, aller aux élections anticipées.
Mais au sein des chefs religieux, ils s'entendent même pas pour arriver à choisir celui qui va diriger la CENI.
Non, les chefs religieux ne s'entendent pas, c'est trop fort. Les chefs religieux, ils ont été induits en erreur. Il y a quelqu'un qui a instrumentalisé certains d'entre eux et il a mis du poison. Puis la situation est arrivée à ce niveau. Ils sont suffisamment responsables et sages pour qu'eux comprennent que la vie de la nation, ce n'est pas leur petit problème ou même pas les querelles ou les gens qui sont venus et séparés. Ils doivent se ressaisir pour se dire que nous avons une mission. Il faut que nous allions plus loin.
L'Assemblée nationale a entériné Monsieur Ronsard Malonda comme président de la CENI. Mais comment pensez-vous les faire revenir en arrière? Parce qu'on en est là.
Vous connaissez cet adage? La fraude corrompt tout. C'est la fraude. On ne peut pas. Et vous voyez l'opprobre. Félix a parlé de l'opprobre. Et il a dit, nous tous d'ailleurs, on a dit que c'est lui qui va quitter la convention de la Moka. L'opprobre va les poursuivre. Donc, non, il n'y a rien. Il ne faut pas vous attarder sur ça. Ça ne passera pas. Donc, Malonda ne peut pas être président de la CENI. Malonda était secrétaire exécutif. C'est sous lui qu'on a fait toute cette tricherie. C'est lui à qui on a demandé de fabriquer les résultats et il a déjà fabriqué.
Vous parlez des réformes institutionnelles. Le FCC de Joseph Kabila a déjà proposé 3 lois pour justement réformer la justice. Quel est votre avis là-dessus?
Ça, c'est pas une réforme institutionnelle. Kabila veut se mettre à l'abri, il veut se couvrir avec ses lois. On peut pas le laisser, il n'est pas le propriétaire du Congo.
Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamuka à la présidentielle de décembre 2018 en RDC. En Éthiopie, la semaine dernière a connu des violences qui ont fait 166 morts et de nombreuses arrestations. Ces violences ont été déclenchées par le meurtre du chanteur Hachalu Hundessa, porte-drapeau de l'ethnie Oromo, abattu par balle dans la soirée du 29 juin à Addis Abeba. Eric Manirakiza a joint la directrice de Human Rights Watch, chargée de la Corne de l'Afrique, Laetitia Bader.
Ce n'est pas la première fois qu'on voit des cycles et de manifestations dont certaines sont devenues très violentes, mais aussi de violences intercommunautaires au cours des derniers 18 mois en Éthiopie. On parle en fait maintenant de cycles de violences, et non seulement dans la région d'Oromia. Donc, on a déjà un contexte qui est très volatile, où il y a eu à plusieurs reprises des incidents qui ont provoqué et manifestations et violences. Et on a aussi eu un gouvernement qui, au début, a pris des mesures très positives pour justement ouvrir l'espace civil et politique, en relâchant les détenus politiques, en réformant des lois qui avaient été très problématiques, qui avaient été utilisées à maintes reprises contre les journalistes, contre les dissidents politiques, mais qui, depuis, je dirais, 18 mois en particulier, recommence à prendre des mesures qui sont contre-productives. Et,
quelles sont ces mesures, par exemple, qui sont contre-productives ?
Donc, alors déjà, on a vu au niveau législatif, on a vu le gouvernement qui a passé une loi sur le discours de la haine qui est très problématique, qui n'est pas du tout au standard des normes internationales sur ces questions. On a vu le gouvernement aussi déployer ce qui est en fait des états d'urgence dans plusieurs régions du pays et notamment dans différentes parties de la zone d'Oromia et au sein de ces états d'urgence, en fait, où c'est l'armée qui est en charge. On a vu aussi des abus assez significatifs contre la population civile. Donc ça, ça a lieu une fois de plus dans des contextes très compliqués. Il y a des groupes rebelles qui se sont réarmés. Il n'y a pas d'internet en ce moment, mais ce n'est pas la première fois non plus que le gouvernement utilise des mesures très fortes pour restreindre la communication, notamment en coupant l'internet.
Mais le Premier ministre actuel est issu de la majorité ethnique des Oromo. Comment expliquer cette flambée de violence ?
Je pense que c'est bien sûr compliqué. Je pense que ce n'est pas seulement une question de qui est au pouvoir, c'est bien sûr une question de résoudre des tensions, résoudre des questions de marginalisation qui durent depuis des décennies. Et c'est pas seulement, bien sûr, la population Oromo qui a souffert dû à une main forte du gouvernement central. C'est aussi beaucoup de différentes communautés dans le pays. Je pense qu'il y a aussi eu une tendance au sein du bureau du Premier ministre de prendre des décisions. Alors, par exemple, récemment, la décision de ne pas tenir les élections en août comme elles devaient avoir lieu, sans vraiment communiquer, discuter avec les partis d'opposition, avec la société civile. Donc, je pense qu'il y a aussi une perception et une réalité d'un gouvernement qui n'est pas toujours très ouvert et pas toujours très transparent non plus.
Laetitia Bader, directrice à Human Rights Watch pour la Corne de l'Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la relance du tourisme 6 mois après le début de la pandémie de COVID-19. L'Union africaine a indiqué la semaine dernière que le continent avait perdu 55 milliards de dollars en revenus touristiques, alors que le secteur représente 10% du PIB et fournit plus de 24 millions d'emplois. La reprise annoncée des vols internationaux par plusieurs pays aidera-t-elle à la relance du secteur ? Comment assurer une reprise des activités touristiques en minimisant les risques sanitaires ? Nous ferons le point avec nos invités ce jeudi 9 juillet 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Gabon, la circulation entre les provinces est à nouveau autorisée. Une des mesures de déconfinement rendues publiques le 30 juin dernier par les autorités. Toutefois, les voyageurs doivent présenter un test de négativité au coronavirus avant tout déplacement. Un reportage de notre correspondant Ismaël Obiang-Nze qui s'est rendu dans l'une des principales gares routières de Libreville.
Les déplacements interrégionaux sont certes autorisés, mais l'on est encore bien loin de la haute saison dans les agences de voyage terrestres. Le constat de Toby, responsable du fret sur les provinces du sud du Gabon, est amer. Les clients ne se bousculent pas encore.
Le gouvernement, suite aux mesures d'assouplissement, a décidé que pour voyager, il fallait avoir un certificat qui attestait que vous êtes négatif à la COVID-19. Et donc, pour l'obtenir, c'est des complications. Voilà pourquoi, pour le moment, nous sommes bien que nous soyons ouverts. Nous n'avons pas de clients.
Le protocole sanitaire du gouvernement, imposable aux transporteurs par ces temps de la pandémie, constitue de la vie de plusieurs chauffeurs de la Nationale 1 un gros handicap pour leur activité. Mohamed Lobé fait la ligne à Lambaréné, une ville située à plus de 300 km de Libreville.
Nous avions souvent des amis sur la route avec les agents de sécurité qui nous menacent aussi parfois de vouloir même nous verbaliser à cause de ça.
À la gare routière, les places à l'intérieur des rares bus en stationnement et leurs tarifs au départ de la capitale gabonaise se négocient quelle que soit la destination. Grâce Nyonda, élève en vacances, rêve de retrouver au plus vite sa famille.
La fin du confinement, c'est une libération pour moi.
Une liberté de mouvement appréciée par tous ceux qui souhaitaient l'allègement des restrictions liées au confinement. Edgar Mayumbo sort d'une maladie et veut aller se reposer loin de Libreville au milieu des siens.
Nous sommes déjà plusieurs bien. Je préfère aller les rendre visite parce que ça fait longtemps qu'ils m'ont vu.
Les conditions de transport impliquent également le respect des distances entre passagers à bord d'un véhicule. Le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, SILTEG en abrégé, est en campagne de sensibilisation auprès de ses adhérents. Pour Jean-Robert Meunier, président du SILTEG, l'observation des règles de précaution sanitaire est non négociable.
Il ne s'agit pas de mettre trois personnes derrière, parce qu'il faut respecter la distance de précaution et de sécurité. Donc nous passons de 8 à 9 passagers, nous ajoutons simplement un passager devant.
Selon le gouvernement gabonais, les transporteurs doivent présenter à chaque embarquement, lorsque requis, un plan de répartition des sièges permettant aux autorités de régulation du transport routier, ferroviaire ou maritime de s'assurer du respect des mesures de protection des passagers. Libreville, Ismaël Oyanzé pour VOA Afrique.
Les États-Unis connaissent une augmentation spectaculaire du nombre d'infections au nouveau coronavirus. La Floride a enregistré 11 458 nouveaux cas pendant la fête nationale le 4 juillet. Les maires des villes américaines, aux prises avec des hôpitaux surchargés, tirent la sonnette d'alarme. Kane Farabo de la Voix de l'Amérique fait le point, le récit de Lionel Gaïma.
L'heure est à l'inquiétude ici aux États-Unis. Le pays enregistre depuis plus d'une semaine des nombres d'infections records. Kate Gallego, la maire de la ville de Phoenix dans l'Arizona, plaide pour un reconfinement.
Nous avions des boîtes de nuit bondées offrant du champagne gratuit et pas de masque. Nos 20 à 44 ans, qui sont de ma propre génération, ont vraiment mené l'explosion de nouveaux cas et nous avons eu une telle résurgence à ce niveau. Nous avons vu des gens se rendre à de grandes réunions familiales et infecter tous les membres de leur famille. Nous sommes en crise pour les tests.
Francis Suarez, le maire de Miami en Floride, est lui aussi confronté à une vague de nouveaux cas de COVID-19.
Il ne fait aucun doute que lorsque nous avons rouvert, les gens ont commencé à socialiser comme si le virus n'existait pas.
Pourtant, le risque était là le 4 juillet, jour de la fête nationale. Dans certaines régions, les gens ont pris d'assaut les plages. Dans d'autres, les foules se sont rassemblées pour regarder les feux d'artifice, y compris à Washington DC, où le président Donald Trump a minimisé la menace du coronavirus qui a tué plus de 130 000 Américains.
But now we have tested almost.
Nous avons testé près de 40 millions de personnes.
By so doing, we show cases.
Ces tests ont montré que 99% des cas sont totalement inoffensifs.
Are totally harmless.
Le président a également évoqué l'urgence de trouver un vaccin.
We are unleashing our nation.
Nous comptons sur le génie scientifique de notre pays et probablement nous aurons une solution thérapeutique et ou vaccinale bien avant la fin de l'année.
Long before the end of the year.
Mais l'administrateur de la FDA, la puissante agence de contrôle des médicaments et de la nourriture, résiste à l'idée de fixer une telle date.
Je ne peux pas prédire quand un vaccin sera disponible, mais nous assistons à une vitesse sans précédent pour le développement d'un vaccin.
Il a également mis l'accent sur les mesures pour freiner la propagation du coronavirus.
Ce que je dirais au peuple américain, c'est de suivre les directives du CDC. sortie d'ici les protocoles des gouvernements locaux et des États. Portez un masque si vous ne pouvez pas vous éloigner socialement. Désinfectez-vous les mains et protégez les plus vulnérables. Voilà comment nous allons nous en sortir.
Les États-Unis sont actuellement le pays le plus touché au monde par la pandémie, avec près de 2,8 millions de cas et quelques 130 000 morts.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission.